Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence pour un nouvel entretien avec l'un des musiciens invités au 19e Festival de Rocamadour. Aujourd'hui, c'est le pianiste Guillaume Bellhomme qui a la gentillesse de se prêter au jeu de l'interview. Il se produit ce soir, samedi 17 août, à 19h30, puis à 21h30 à la Basilique Saint-Sauveur, en compagnie du violoniste Renaud Capuçon, de l'altiste Paul Zientara et de la violoncelliste Stéphanie Wang. Le programme est entièrement dédié à Gabriel Fauré. Double concert donc en hommage au grand compositeur français né à Pamiers dans notre région et dont nous commémorons le 100e anniversaire de la mort en 2024. Bonjour Guillaume Bellhomme et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à vous exprimer sur les ondes de Radio Présence.
Bonjour et merci à vous.
Nous allons bien sûr parler de ce concert, de Fauré et des musiciens avec lesquels vous allez jouer ce soir. Mais on va d'abord parler de vous si vous voulez bien. Vous êtes originaire de Besançon, vous avez été élève au conservatoire de votre ville avant de poursuivre vos études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où vous avez eu pour professeur Hortense Cartier-Bresson et le très regretté Nicolas Angelich. Quels souvenirs vous gardez de vos années d'études à Paris et de l'enseignement que vous y avez reçu de vos maîtres, de grands maîtres ?
Alors ça a été une plongée dans un grand bain musical qui m'était inconnu à cette époque. C'est vrai que je n'avais pas eu l'occasion de venir souvent à Paris et donc ça a été une vraie plongée dans ce monde-là. Et donc je suis rentré avec Nicolas Angelich donc comme premier professeur. Je suis tout de suite allé l'écouter au Théâtre des Champs-Élysées. J'ai tout de suite été évidemment à la fois impressionné et extrêmement bouleversé par son jeu. Et je dois dire que ça a été, et c'est toujours d'ailleurs un grand modèle pianistique pour moi. C'est quelqu'un qui m'a tout de suite parlé de son, qui m'a appris à projeter tout ce son, toutes ces émotions dans des grandes salles. C'est quelque chose qui faisait admirablement. Donc j'en garde évidemment un souvenir extrêmement présent, extrêmement important. Et puis j'ai poursuivi avec Hortense Cartier-Bresson, qui a été aussi très très déterminante, qui elle m'a amené encore d'autres aspects. Elle a continué évidemment à me parler de son. Moi, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé pendant mes études, le son du piano, comment faire sonner l'instrument. Et Hortense, voilà, encore aujourd'hui, c'est d'une grande inspiration, une musicienne que j'admire vraiment beaucoup. Et donc ça a été comme ça une plongée dans ce monde musical du piano et je m'en suis pas ressorti et je suis bien heureux.
Ça veut dire que vous l'appelez encore de temps à autre et que vous écoutez encore les conseils qu'elle peut vous donner, même si maintenant vous êtes bien avancé dans la carrière.
Alors au-delà de ça, bien sûr, c'est quelqu'un qui est resté très présent dans ma vie musicale, mais au-delà de ça, on a même l'occasion de jouer ensemble maintenant. Un programme avec on est trois de ses anciens poulains, on pourrait dire, et on partage la scène à deux pianos, à quatre mains. On l'a joué à la Rock d'Anteron l'année dernière avec Théo Fouchéneret et Roleret Bouzajan, et c'est vraiment une expérience encore différente que de partager la scène avec celle qui était notre professeur, mais au-delà de ça, qui est une musicienne avec qui on partage de la musique, et c'est ce que ça veut dire finalement. C'est que, bien sûr, on a des professeurs, mais ce sont avant tout des musiciens et avec qui on partage de la musique au-delà des conseils et au-delà des cours un peu formels.
Pour un jeune musicien, il y a évidemment les maîtres qui lui ont transmis leurs conseils, leurs enseignements lorsqu'il était encore un jeune étudiant. Et puis, il peut y avoir des modèles parmi les grands pianistes célèbres. Est-ce que vous en avez ?
Bien sûr, bien sûr. Alors, je pourrais pas citer un nom ou deux noms qui pourraient convenir à absolument tout le répertoire. Je pense que, comme beaucoup, j'ai des grands maîtres d'écoute, comme ça, des modèles, selon les pièces que j'écoute. Si j'écoute du Schubert, j'irai vers Brendel ou vers Kempf. Si j'écoute du Chopin, j'irai vers, je sais pas, moi, Magaloff, Sanson François. Enfin, voilà, évidemment, il y a autant de grands maîtres que de grandes œuvres. Et je pense qu'on est suffisamment bien pourvu en tant que pianiste en grande version des grandes œuvres pour se permettre d'admirer plusieurs interprétations de la même œuvre. Et donc, j'essaie de cultiver ça encore aujourd'hui.
Vous évoquez là des grands compositeurs. Est-ce qu'il y en a certains qui, pour vous, sont vraiment des compositeurs de prédilection, dont les œuvres sont pour vous les terrains de jeu favoris ?
Alors, disons qu'on a, je pense, selon notre jeu, notre main, notre sensibilité, on a évidemment des compositeurs vers qui on va se tourner plus que d'autres. J'ai été beaucoup, moi, baigné dans la musique de Bach, comme beaucoup, hein, pour commencer, et ensuite Mozart, beaucoup de Schumann, de Fauré. Voilà, on pourrait dire que tous ces compositeurs appartiennent à une grande lignée comme ça musicale. C'est-à-dire qu'il y en a tellement, et ça dépend des périodes. Je vais avoir une période très beethovenienne en travaillant beaucoup de ses sonates, une période très schumannienne, une très fauréenne, comme cet été c'est le cas avec cet anniversaire. Donc voilà, on est aussi en mouvement et on a un certain nombre de compositeurs qu'on admire beaucoup et qu'on va jouer successivement.
Vous avez une singularité, c'est que vous avez longtemps mené de front l'étude du violon en même temps que celle du piano. À quel moment le piano s'est-il imposé à vous et pourquoi?
Alors, vous faites bien de dire que c'est le piano qui s'est imposé à moi et c'est pas moi qui ai choisi à un moment ou à un autre de poursuivre vers l'un ou vers l'autre. Ben, il se trouve que, voilà, en arrivant à Paris, au CNSM, dans les deux instruments, j'ai eu la chance de pouvoir étudier les deux. Il s'est trouvé que, voilà, les concerts arrivaient plutôt en tant que pianiste, le répertoire a monté en conséquence aussi, et le temps passé sur l'instrument également. Et donc, tous ces facteurs-là ont fait que, très naturellement, voilà, je me suis perfectionné dans cette pratique du piano et jusqu'à en faire maintenant totalement mon métier. Mais donc, ça a été comme ça très progressif. C'est pas absolument pas un choix qui a déterminé ça, mais c'est plutôt une suite d'événements. Et encore aujourd'hui, j'ai mon violon avec moi, évidemment. Je l'ai mené à un niveau suffisant pour pouvoir en jouer. Mais en tout cas, pour le moment, pas d'une manière publique et ça me va très bien.
Je suppose que cette connaissance du violon, de la pratique de l'archet, vous est aujourd'hui très précieuse lorsque vous jouez en formation de chambre et notamment lorsque vous jouez en duo avec Renaud Capuçon.
Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que pour un pianiste, si on pourrait décrire le piano d'une manière très peu poétique et très terre-à-terre comme ça, on ne fait qu'appuyer sur des touches, on ne fait qu'actionner des marteaux, c'est un instrument percussif par nature. Alors évidemment, on va chercher toujours à enlever ce côté-là, à essayer de le cacher un maximum. Et pour ça, c'est vrai que savoir ce qu'est un archet, savoir ce qu'est une courbe de son, savoir ce qu'est un vrai legato, et bien forcément, ça nourrit l'imaginaire sonore et ça permet ensuite, quand on est sur un instrument comme le piano, ça permet de donner l'illusion peut-être encore plus facilement. En tout cas, quand je joue une phrase au piano, je pense qu'il y a aussi une partie de moi qui la joue avec un archet imaginaire. Et forcément, quand je joue avec un violoniste aussi, ça m'est très précieux, ça me permet de comprendre beaucoup de choses dans la respiration, dans les changements d'archet, dans les timings, dans énormément de choses, d'ailleurs probablement pas conscient de tout. Et en tout cas, je sens bien que c'est quelque chose de très précieux et de très enrichissant.
Vous avez déjà enregistré près d'une dizaine de CD, seul ou avec d'autres musiciens, et le dernier en date est tout récent, il est paru au printemps, ce sont des pièces pour piano seul de Richard Strauss, un album qui a été donc publié sous le label Mirare, des œuvres de Prime Jeunesse, du grand compositeur allemand dont on connaît surtout les opéras et la musique symphonique, mais beaucoup moins la musique pour piano. Elle a d'ailleurs été assez rarement enregistrée. Comment vous en est venue l'envie? Je crois que ça a à voir avec un disque que lui avait consacré Glenn Gould à la fin de sa vie.
C'est tout à fait ça. Il y a quelques années, même pendant le confinement, il me semble, Renaud Capuçon qui m'appelle, qui me dit... qui m'envoie ce disque, en tout cas cette recommandation, qui me dit « tu devrais écouter ça, je pense que ça te plaira ». Et il ne s'est pas trompé, c'est-à-dire que j'ai tout de suite accroché à cette musique que je ne connaissais pas, comme beaucoup. Effectivement, moi, je connaissais le Strauss des opéras, je connaissais le Strauss d'après, mais ce Strauss-là, je l'avais approché, bien sûr, avec la sonate pour violoncelle, la sonate pour violon, mais son répertoire pour piano, je ne le connaissais pas, et j'ai eu comme une évidence, un coup de foudre avec cette musique, teintée de Mendelssohn, de Schumann, de Mozart, donc ça m'a tout de suite... Voilà, je vous parlais tout à l'heure de mes compositeurs un peu de prédilection, donc voilà, j'y étais totalement. Et donc c'est une musique qui m'a tout de suite parlé, non seulement à l'écoute, et aussi au moment de la déchiffrer, de la mettre sous mes doigts. Et donc j'ai eu le bonheur, voilà, de les parcourir, de les approfondir comme ça pendant quelques mois, quelques années, avant de les enregistrer. Et donc voilà, au printemps, le disque est sorti, je suis absolument ravi de pouvoir continuer à les jouer, et de pouvoir surtout aussi les faire découvrir. Je pense qu'à chaque concert où je joue un des opus de Strauss, j'ai des réflexions de personnes qui me disent découvrir cette musique et donc ça pourrait pas me rendre plus heureux.
Je confirme après avoir écouté la plupart des pièces qui sont sur ce CD que c'est vraiment magnifique. Quelles pièces on trouve d'ailleurs sur ce disque? Ce sont des pièces vraiment de prime jeunesse. Il a quoi, 17-18 ans quand il les compose, Strauss?
Ah oui, il est très précoce. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Il admirait Mozart et je pense qu'il partage avec lui cette précocité et il écrit ces pièces-là. Alors, il faut savoir qu'il compose dès l'âge de 8-9 ans, il me semble même. Il compose plein de petites valses, de mazurkas, de choses comme ça qui ne sont pas publiées sous forme d'opus, voilà, mais il compose dès le plus jeune âge, comme son maître Mozart, on dirait. Et cette précocité, elle est absolument folle. Et dans ses pièces pour piano, on sent une vraie virtuosité de l'écriture aussi. Il n'hésite pas à se lancer dans des contrepoints, dans des fugues, dans des choses voilà, extrêmement techniques aussi. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'entre l'opus 3 et l'opus 9, donc qui constitue l'amplitude de ces opus pour piano, on sent déjà une différence. L'opus 9 est déjà beaucoup plus épuré et déjà tourné peut-être un peu plus vers le Strauss de la maturité, avec des atmosphères beaucoup plus intimes, etc. Mais c'est absolument passionnant comme plongée parce qu'on voit d'où il vient, comment il a appris la musique, quels sont ses compositeurs de prédilection, et on commence à sentir aussi un petit peu ce qui va devenir son rapport à la modernité et l'empreinte qu'il va laisser sur le monde musical de cette époque.
Et dans ce très beau CD que je recommande à tous ceux qui aiment la musique pour piano de Strauss ou qui veulent la découvrir, il y a le premier des 5 Klavierstücke opus 3. On l'écoute tout de suite sous les doigts de Guillaume Bellum. Une petite merveille digne du meilleur Schumann que ce premier des 5 Klavierstücke opus 3 de Richard Strauss, joué avec beaucoup de délicatesse et de sensibilité par Guillaume Bellum, un extrait du CD Strauss Piano Works que vous avez récemment fait paraître sous le label Mirare. On en arrive au concert que vous allez donner ce soir, ce samedi 17 août, à 19h30 puis à 21h30 à la Basilique Saint-Sauveur, avec le violoniste Renaud Capuçon, l'altiste Paul Zientara et la violoncelliste Stéphanie Huang. Le programme est donc entièrement dédié à Gabriel Fauré, qui a beaucoup écrit pour le piano justement et pour la musique de chambre. Est-ce que c'est un compositeur qui vous tient particulièrement à cœur, Guillaume Bellum?
Ah oui, bien sûr, c'est un des grands, un de ceux que j'admire, un de ceux qui me portent et que j'aime jouer, et notamment toute cette musique de chambre que j'ai l'occasion là de jouer pendant tout l'été. C'est un magnifique chef-d'œuvre, le trio qui est superbe. Une de ses dernières œuvres, le deuxième quatuor, où il va remettre un petit peu les cloches du village de son enfance dans un second mouvement absolument poignant. Et ça fait partie de ces compositeurs qui sont un petit peu mes compositeurs de chevet, que j'écoute, que je joue, qui me reconnectent peut-être à l'essentiel de la musique. Et je ne peux être qu'heureux de cette année anniversaire où on en joue peut-être encore plus qu'avant et on l'a fait aussi découvrir, cette musique qui n'est pas forcément la plus écoutée, la plus comprise, et je pense que c'est notre rôle à nous, interprètes, de la faire comprendre, de la faire aimer. Quand on aime cette musique, je pense qu'on a envie de la partager.
Oui, alors souvent Fauré, beaucoup de gens en restent à son Requiem, qui, il est vrai, est magnifique, bien sûr, mais sa musique pour piano, effectivement, est beaucoup moins connue, peut-être aussi beaucoup moins jouée. On la redécouvre cette année. Alors vous-même, vous avez enregistré un CD paru en juin avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne, où vous jouez du Fauré, justement. Hein.
Alors oui, plus exactement, je participe, on va dire, à un très très beau disque Fauré, initié par Renaud Capuçon, au violon et à la baguette aussi, avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir jouer avec eux la ballade pour piano et orchestre de Fauré, qui est une œuvre plutôt de jeunesse, mais absolument merveilleuse. C'est un très très beau disque avec le concerto pour violon, avec Cil et Légie, avec Julia Hagen au violoncelle. Et donc c'était un vrai honneur de pouvoir participer à ce disque qui est paru en juin chez Deutsche Grammophon. Et c'était une découverte de plus, cette ballade qu'on joue beaucoup au piano solo. Et là, la version avec orchestre est encore enrichie de ce chatoiement des harmonies, de ce jeune Fauré qui est héritier de Chopin, en tout cas en ce qui concerne le piano et son rapport au son, son rapport à beaucoup de choses. Donc voilà, moi, c'est évidemment un grand plaisir d'avoir pu y participer.
Je vais vous demander de nous présenter les trois musiciens avec qui vous allez jouer ce soir à la Basilique Saint-Sauveur. Bon, concernant Renaud Capuçon, on ne le présente plus, mais vous pouvez peut-être nous raconter comment s'est faite la rencontre avec lui, sachant que vous jouez ensemble maintenant depuis plusieurs années. On vous avait déjà entendu en duo à Rocamadour en 2020, et il y avait déjà du Fauré au programme, si ma mémoire est bonne. Il y avait une sonate de Fauré.
Oui, la première sonate de Fauré, en plus c'était une année un petit peu particulière, puisque on était en 2020, on était masqués, je m'en souviens, c'était très particulier. Et en tout cas, cette rencontre avec Renaud, elle part d'une histoire assez amusante. C'était, j'étais le professeur de piano et de violon de son fils, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc voilà, c'est une manière assez originale finalement. Et puis de là, on a joué une pièce ensemble, puis une sonate, puis un concert, puis maintenant plusieurs concerts par an, un certain nombre. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est tissé comme ça au fil des années. On a totalement appris à se connaître. Moi, j'ai tout de suite compris que c'est quelqu'un qui faisait confiance, qui m'a tout de suite laissé une place pour m'exprimer aussi sur scène, vraiment. Donc c'était pour moi une grande liberté de pouvoir être à ses côtés sur scène, qui continue encore aujourd'hui. Et ce désir de transmission aussi s'est poursuivi pour sa part avec la formation de Beaussoir Productions. Maintenant, il y a 2-3 ans de cela, et avec de jeunes artistes, et dont font partie justement Paul Giantara et Stéphanie Huang, avec qui on va partager la scène tout à l'heure. Et ce sont des magnifiques jeunes musiciens que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et maintenant ça fait même pas si longtemps qu'on joue ensemble, mais j'ai l'impression qu'on joue depuis 10 ans avec Paul, avec Stéphanie, parce qu'on a déjà partagé beaucoup, beaucoup de souvenirs musicaux. Et donc, il y a cette sensation d'appartenir à peut-être une grande famille, comme ça, musicale, sous l'égide de Beaussoir, avec aussi ceux qui l'organisent, Juliette et Pierre. Et donc, voilà, c'est toujours de partager la musique avec des gens avec qui on a envie de la partager, avec cette confiance et tout ce qui va avec. Bah forcément, on la partage différemment et c'est toujours un grand bonheur.
Et pour les concerts de ce soir à la Basilique Saint-Sauveur, quelles œuvres de Fauré allez-vous jouer avec vos trois camarades ?
Alors, je vous les ai évoqués tout à l'heure, le trio, le fameux trio écrit à la fin de sa vie, qui est absolument merveilleux pour piano, violon, violoncelle. Le deuxième quatuor, là on est plus dans les opus centraux, on va dire, et c'est une musique extrêmement puissante, extrêmement prenante en ce qui concerne le piano. On a un rôle de coloriste, on a un grand rôle thématique aussi, et puis une vivacité comme ça rythmique qui vous prend dès le début, avec ces trémolos qui sont absolument prenants. Et puis, avec Renaud, la première sonate, c'est vrai qu'il est une œuvre plutôt de jeunesse, je vous l'évoquais avec la ballade de Fauré, c'est un Fauré qui peut-être l'héritier d'un Chopin, avec déjà, on le sent, des grandes plages comme ça de thématiques qui semblent ne jamais se terminer, à la fois un chatoiement et comme ça, dès le début, une amplitude aussi du piano. Il fait utiliser des basses extrêmement résonantes, extrêmement profondes, et je ne doute pas que dans ce cadre, Rocamadour, ça devrait résonner avec beaucoup d'intensité.
Alors, il me semble qu'il y a au programme aussi sa mélodie Après un rêve, donc composée à la base pour la voix et le piano, que vous allez jouer avec Stéphanie Huang, a priori.
Oui, alors ça, c'est un forêt un peu différent. C'est le forêt, avant tout, de la musique de salon. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif de dire ça, mais c'est-à-dire que c'est une musique qui était voilà, jouée dans les salons pour être projetée à Paris au début du siècle, dans une atmosphère absolument particulière. Et donc, cette intimité-là, je pense, c'est toute particulière à cette musique, et notamment à cette mélodie. Il en a composé beaucoup, et donc on est sur un forêt pluriel. On a le forêt des grands espaces, le forêt qui projette énormément d'intensité, et ce forêt intime qui est extrêmement touchant et qui pourrait faire penser à du Schumann aussi sous certains aspects.
Avant de conclure cet entretien, je propose qu'on vous écoute en duo avec Renaud Capuçon et dans une œuvre de Fauré, bien justement, vous jouez ici sa sonate pour violon et piano numéro 1. Un autre petit bijou que cette sonate pour violon et piano numéro 1 de Gabriel Fauré, interprétée par Guillaume Bellom et Renaud Capuçon. Dernière question pour terminer. Vous avez déjà joué à la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour lors du Festival 2020, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous inspire ce lieu et son acoustique?
Ah bah c'est évidemment un lieu totalement à part. On est tout de suite déjà sur ces hauteurs, peut-être comme dans un monde un petit peu parallèle, soit dans le temps, soit en tout cas on se sent ailleurs immédiatement, ce qui est évidemment très inspirant. Et l'acoustique aussi du lieu l'est tout autant. C'est une acoustique absolument merveilleuse par sa clarté, mais aussi sa générosité de résonance. Et je suis absolument ravi parce que j'en garde un souvenir très très précis et extrêmement heureux de ce moment-là. Et donc je suis ravi de pouvoir renouveler l'expérience.
Vous allez enchaîner deux concerts, donc le premier à 19h30 et le second à 21h30. Est-ce que c'est une difficulté ou sans plus pour quelqu'un comme vous?
Effectivement, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On est habitué à jouer un concert. Il se trouve que pendant la période du Covid, on a été amené à le faire un certain nombre de fois. Et finalement, on s'est rendu compte que ça, c'était très intéressant de voir qu'à quelques minutes d'intervalle, deux concerts pouvaient être si différents. Déjà, le public est différent, nous, on est différents, et on joue d'une manière différente, alors pas mieux ou moins bien, hein, juste d'une manière différente. Et c'est très, très, à la fois très intéressant, et puis c'est une concentration différente, forcément. Quand on sort de scène, on a l'habitude de relâcher la pression. Voilà, quand on sort de scène une première fois, il faut maintenir une forme d'énergie et de concentration. Et c'est à la fois un très bon exercice et ça permet peut-être d'essayer des choses un petit peu différentes. Voilà, sur les deux fois comme ça, on va avoir des libertés une fois ou l'autre. Et je pense que c'est très très intéressant à avoir comme expérience. Oui.
Merci beaucoup, Guillaume Bellhomme. Je rappelle donc que vous donnez deux concerts ce samedi soir à la Basilique Saint-Sauveur à 19h30 et 21h30 avec Renaud Capuçon, l'altiste Paul Zientara et la violoncelliste Stéphanie Huang. Le programme est entièrement dédié à Gabriel Fauré. C'est quasi complet, mais il reste quelques places. La billetterie est en ligne à l'adresse www.rocamadourfestival.com. Merci à tous d'être fidèles à ce rendez-vous avec les musiciens du Festival 2024. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouvel entretien avec l'un d'entre eux. Très bon après-midi à tous, à l'écoute de Radio Présence.